Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, animatrice de l'émission d'information locale de Canal B qui commence. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la ville de Rennes demande l'évacuation du campement des Gailleuls. Interview d'une paysanne meunière boulangère qui ouvre sa ferme au public dimanche. Il y aura une nouveauté musicale à se mettre dans les oreilles. La chronique de la CIMADE accompagnée d'un témoignage et puis une recommandation autour du film Algue Verte. Bienvenue dans la Rennes. L'info du jour pour commencer, c'est la ville de Rennes qui annonce saisir le tribunal administratif de Rennes. Ça demande l'évacuation du campement installé au Gailleul depuis le début de l'été. Sur place, plus d'une centaine de personnes sont logées de façon précaire, sous tente. Un public de personnes exilées sans solution d'hébergement. Et parmi les 135 personnes comptabilisées par les services de l'État, on trouve 57 enfants. La salubrité du campement se détériore au fil des jours, justifie la ville de Rennes dans un communiqué à propos de sa démarche, et ce, en dépit de la mobilisation des associations de solidarité avec l'appui des services municipaux. En parallèle, la préfecture d'Ille-et-Vilaine aurait un plan de mise à l'abri prêt dans un contexte installé, on sait, de saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence. La ville de Rennes et la métropole se disent prêtes à participer à ce plan, d'où la demande auprès du tribunal administratif, assortie, on le précise, de la mise à l'abri de l'ensemble des personnes. Même si, lors de précédentes évacuations, il était rare de voir tout le monde relogé. Le jour de la publication de ce communiqué, mercredi 6 septembre, une manifestation de solidarité aux personnes exilées était organisée en centre-ville. On y retrouvait notamment l'association de soutien aux personnes exilées Utopia 56, inquiète en particulier du sort des enfants logés sur ce campement. Sans maison, il n'y aura ni repos, ni devoir le soir. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, une interview en compagnie d'une paysanne aux multiples casquettes. Blandine l'écrivain, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Blandine, vous êtes à la fois paysanne, meunière et boulangère du côté de Saint-Germain-en-Cogle, près de Fougères. Et votre ferme, elle accueillera dimanche un événement qui est piloté par AgroBio 35, le groupement des agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine. On redit en quelques mots ce que c'est AgroBio 35 et puis aussi pourquoi vous avez décidé de rejoindre ce groupement-là, ce que ça vous apporte.
Alors AgroBio 35, c'est un groupement d'agriculteurs biologiques sur l'Ille-et-Vilaine, donc ça regroupe 500 fermes, on est 350 fermes, on est 500 adhérents, 23 salariés, et AgroBio nous accompagne sur tout ce qui est filière, qui nous accompagne aussi au niveau technique pour tout ce qui est agronomie, tous les renseignements dont on peut avoir besoin, aussi par rapport à la réglementation bio, le cahier des charges, les évolutions, il y a toujours des mises à jour de fait. Pour les événements aussi, comme la porte ouverte, on a un accompagnement. Et en fait, AgroBio défend aussi toutes les valeurs liées à l'agriculture biologique. Il nous accompagne aussi sur la PAC quand il y a des nouveautés, comme cette année par exemple.
La PAC politique agricole commune.
Voilà, c'est ça.
Et très concrètement, ça marche comment ? Vous participez à des réunions régulières ou, je sais pas, il y a des groupes WhatsApp, un numéro de téléphone. Comment est-ce que le lien s'établit pour avoir ces conseils-là ?
Alors, ça dépend nos orientations. Moi, par exemple, je fais partie du GIE Biodiversité, donc il y a un groupe WhatsApp biodiversité. J'ai fait partie aussi du conseil d'administration d'AgroBio. Donc j'ai arrêté cette année parce que j'avais trop de travail. Donc il faut, je rends hommage à tous ceux qui s'investissent dans le bureau et dans le conseil d'administration. C'est un vrai travail et ils sont vraiment très compétents.
Dans un instant, on va annoncer un événement grand public, donc, mais AgroBio, l'essentiel de ses actions se passe avec donc, des professionnels dans le champ agricole. Il y a deux fermes ouvertes professionnelles justement à venir au mois de septembre. La deuxième, ça se passera le 28 septembre du côté de Mordel, pas très loin de Rennes, pour parler d'installation, mais en association et sans être issu du milieu agricole. On voit un peu la thématique aussi des néo-ruraux. Gros qui est abordé. Vous accueillerez aussi une ferme professionnelle lors du temps de dimanche prochain, le 10 septembre, pour parler de quel sujet ?
Alors j'expliquerai mon métier en fait de paysanne meunière boulangère. Il y aura 3 visites guidées, une qui est plus dédiée aux professionnels le matin à partir de 10h30, 2 l'après-midi, une à 14h, une à 16h.
Les professionnels que vous allez recevoir dimanche, vous allez leur parler de votre triple casquette là sur votre ferme paysanne, meunière et boulangère. Vous allez parler de la valorisation du pain et du veau bio. C'est quelque chose d'original d'avoir plusieurs casquettes comme ça.
Ben, je pense qu'il y en a de plus en plus. Après, moi, quand je me suis installée en 2006, on était peu nombreux à faire du pain à la ferme. Il y a de plus en plus d'installations et justement, c'est aussi pour que des personnes qui ont les projets d'installation en paysan-boulanger puissent venir prendre des informations, rencontrer d'autres personnes qui partagent la même chose. Et puis, voilà, rencontrer d'autres gens qui ont de l'expérience, et c'est toujours intéressant. Moi-même, j'ai eu, quand je me suis installée, j'ai bénéficié de l'expérience de d'autres, et c'est quelque chose que je veux poursuivre.
Justement, pour en parler de l'installation, vous êtes donc installé en 2006 à Saint-Germain-en-Cogle sur la ferme. Redites-moi le nom de votre ferme.
C'est la ferme du Baval.
Vos parents étaient déjà agriculteurs ?
Mes parents étaient agriculteurs en vache laitière et moi, quand je me suis installée, j'ai créé l'activité de pain qui maintenant est prédominante en fait. Et l'activité laitière s'est arrêtée au profit des vaches allaitantes. Donc j'élève aussi une trentaine de vaches au braque et je valorise la viande de bœuf et la viande de veau sur ma ferme.
On imagine que c'est plus facile d'avoir des parents agriculteurs pour se lancer en termes de terrain et de transmission aussi,
ça facilite,
de pratique.
Ça facilite sur un certain plan. Après, il peut y avoir une pression familiale et puis c'est les deux en fait. Les personnes qui s'installent, qui ne sont pas issues du milieu agricole, ils ont cette pression-là en moins, ils apportent aussi de la nouveauté, ils n'ont pas de barrière comme nous on pourrait en avoir. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est un peu l'avenir en fait. Et c'est pour ceux qui sont agriculteurs de génération en génération, c'est important d'intégrer, d'accueillir ces nouvelles personnes qui sont des forces vives et qui amènent des nouveaux projets et une nouvelle façon de voir en fait.
Vos parents étaient déjà en agriculture biologique, il y a eu cette transmission-là cette valeur-là.
La ferme est en agriculture biologique depuis 1997 et c'était aussi la ferme de ma grand-mère maternelle, donc je suis vraiment attachée à ce territoire-là.
C'est un projet que vous menez seul, non, parce que vous avez des salariés aujourd'hui avec vous, on imagine que ça change tout d'avoir des salariés.
Oui, en fait, je travaille au fournil avec 2 salariés. On ne boulange pas tous les jours, en fait, parce qu'il y a le grain à cultiver, le blé à moudre, les vaches dont il faut s'occuper, toute la partie gestion. Donc, en fait, je boulange le mercredi et le vendredi. Donc, on boulange, tous nos pains sont au levain, cuits au feu de bois. La farine est produite sur place et je cultive aussi des variétés de blé ancien, de l'épeautre. On fait aussi du petit épeautre. Donc il y a tout ça à harmoniser et à vendre sur les marchés ou dans les biocopes.
La ferme du Baval que vous menez, là, elle a donc plusieurs visages. Tout commence dans les champs où vous cultivez des céréales en agriculture biologique. Vous avez quelle surface ? Et ça, on pourrait dire que ça occupe quel temps ou peut-être quelle partie de l'année aussi ? Il y a une saisonnalité ?
Alors, la ferme fait 65 hectares. On cultive entre 6 et 10 hectares de blé. Donc, on a une partie de blé ancien. Donc, le blé, en fait, se sème à l'automne. Je travaille en coopération avec un groupement de les CUMA, en fait, par rapport au matériel agricole. Donc, je fais faire ce travail-là. Et puis, après, la grosse période, c'est le mois de juillet, en fait, pour la récolte du blé, qu'on attend avec impatience. Et puis, on attend toujours de voir la qualité du blé.
Ensuite, il y a donc la transformation des céréales. Vous avez donc un moulin sur place à votre ferme. On s'imagine des moulins imposants. Là, on parle d'un plus petit moulin. Ça ressemble à quoi ?
C'est un plus petit moulin, effectivement, ce qui n'est pas très grand. En fait, la partie moulin fait peut-être 20 mètres carrés. Et en fait, c'est un moulin Astrié, donc qui a été créé par les frères Astrié. Et je crois, il me semble qu'il y a 2 fabricants de moulins Astrié. Un en Bretagne, Samuel Poilane, l'atelier Païs, et un dans les Alpes. Donc c'est un moulin où on peut faire 50 kg de farine à l'heure. Et puis, donc c'est automatique en fait, c'est pas un moulin à vent, c'est pas un moulin à eau, donc ça fonctionne avec l'électricité.
Et vous avez assez, enfin vous produisez assez de céréales pour avoir de quoi ensuite faire vos pains, ou vous devez, parfois on va s'approvisionner ailleurs pour compléter, ça, vous faites comment ?
Eh bien en fait, pour l'instant j'ai toujours été autonome en blé. Après il peut y avoir des années où la récolte est moins bonne, où on pourrait s'approvisionner auprès de d'autres producteurs. Le petit épeautre, je ne le cultive pas parce qu'il faut des terres plutôt caillouteuses, beaucoup de soleil, donc c'est dans le pays de Fougères, on a plutôt des terres profondes et c'est pas trop adapté. Après, là, je travaille aussi avec le moulin de Marigny parce que le moulin Astrier ne peut pas faire de la farine T55. On peut faire de la farine T80 et T110.
Ça, en fait, T55, c'est la plus fine. Donc
oui,
vous avez
la plus blanche, en fait, on va dire. Donc, en fait, j'emmène mon blé à moudre au moulin de Marigny à Saint-Germain-en-Cogles, qui est certifié pour moudre du blé bio, ce qui est vraiment très pratique. Et j'avoue que là, je suis chanceuse d'avoir ça à proximité. Voilà, et on s'approvisionne aussi auprès de producteurs locaux dans la mesure du possible pour, par exemple, le lait, les œufs.
Le levain, c'est votre levain ?
Oui.
Vous l'avez depuis combien de temps ? Parce que des fois, il y a des petites fiertés à dire
ouais.
Ah, c'est un levain que j'ai depuis tant d'années, que je cultive.
Ouais. Bah alors là, c'était le cas encore il y a quelques mois, mais en fait, mon levain, c'était... Thierry Bafou en Mayenne qui m'avait donné mon premier levain et il a tourné accidentellement. Il y a, dans le local où il était, il a fait trop chaud et puis donc
il a fallu repartir de zéro.
Donc j'ai des amis paysans boulangers qui ont bien voulu m'en redonner un petit peu pour repartir.
Et donc ce levain, il sert à confectionner toute une gamme de produits boulangers puisque vous êtes paysanne, meunière et boulangère. Quel choix vous faites sur le mode de vente ?
Alors on vend à la ferme tous les vendredis soirs hein, entre 16h et 19h. Je vends aussi à d'autres fermes du secteur, à Mélé par exemple, à Fruits des Prés le vendredi et à la Hubaudière à Laignelay. Donc c'est dans mon coin. Je fournis également la MAP de Fougères. Donc AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je livre également les biocopes de Rennes. Donc ça c'est le jeudi. Et donc je fais deux marchés par semaine, le marché de Fougères le samedi matin, place du Beffroi, et du mercredi après-midi entre le cinéma et la médiathèque.
Ça demande aussi une sacrée énergie de multiplier comme ça les points de vente, j'imagine.
Oui, et effectivement, mais il ne faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et c'est vrai que pendant le Covid, ça m'a bien aidée quand même parce que les marchés ont été annulés sur Fougères. Et j'étais bien contente d'avoir le réseau Biocop et puis le réseau aussi des agriculteurs locaux en fait, pour mutualiser les produits.
Biocop, tiens, on le dit, qui est donc actuellement en redressement judiciaire, Scarabée Biocop, qui a fermé plusieurs boutiques ici à Rennes pour essayer d'améliorer sa situation financière. On en a déjà parlé dans l'émission d'information locale, particulièrement la guerre en Ukraine et l'inflation ont participé un peu à une mise en difficulté du secteur de l'agriculture biologique. On a des paysans qui sont venus nous en parler dans l'émission d'information locale. Ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que ça va mieux, même si l'inflation, on le voit, est toujours là, est toujours forte. Ça va mieux, on est un peu revenu à ce qu'on connaissait en termes de vente avant la crise sanitaire, qui a été un peu exceptionnelle. Hein. Les gens se sont rués vers le bio, avaient du temps pour cuisiner, etc. Mais là, il y a quand même du mieux.
Alors, la situation s'améliore. Les Scarabées Biocop, la situation aussi va vers le mieux. Donc c'est toujours en redressement, mais bon, on est dans l'attente de savoir comment ça va finir en fait, mais on a vraiment bon espoir que ça continue. Et par rapport à l'inflation, finalement les produits bio, le prix des produits bio se rapproche vraiment du prix des produits classiques, parce que peut-être que nous on subit, enfin moi le prix de mon blé par exemple n'a pas augmenté, et mes tarifs sont restés tout à fait abordables, et quand je le compare à d'autres, je ne suis pas au-dessus spécialement quoi.
Une dernière question sur votre travail. Là, toutes les activités qu'on a évoquées, on imagine que ça fait déjà un sacré boulot. En plus de ça, vous élevez aussi des vaches allaitantes dans le but d'élever et de vendre de la viande de bœuf et de veau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la logique agronomique de tout cet ensemble d'activités ? En quoi ça fait sens pour vous d'avoir toutes ces casquettes ?
Eh bien, en fait, j'ai 65 hectares de terre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait 10 hectares pour le blé. Mais en fait, en agriculture biologique, on fait des rotations, c'est-à-dire que le blé ne peut pas revenir souvent dans la même parcelle. Et puis, j'ai aussi des surfaces qui sont où on peut cultiver que de l'herbe. C'est assez vallonné chez moi, ça s'appelle le Baval, donc je suis dans le fond de la vallée, donc j'ai des pentes et donc c'est vraiment adapté pour faire pousser l'herbe. Et au niveau agronomique, eh bien, comme on n'utilise pas d'engrais chimiques, eh bien, il faut de la matière organique en fait, qui vient des animaux. Donc c'est important au niveau de l'agronomie, des rotations, d'avoir une partie élevage, même si je la diminue un petit peu en termes de temps de travail.
Pour la bouse de vache.
Voilà, pour la bouse de vache, le fumier, voilà.
On arrive au programme de la journée de dimanche 10 septembre. Ça boulange à Saint-Germain, c'est le nom de l'événement qui est piloté par AgroBio 35, le groupement des agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine. Et le public est donc invité à venir découvrir la ferme du Baval à Saint-Germain-en-Cogles. De 10h30 à 18h, il y a tout un programme de visites, de randonnées et d'ateliers de fabrication du pain. Il est conseillé de réserver juste là sur ces ateliers de fabrication du pain. Il y en aura 3, c'est ça, dans la journée ?
Oui, il y a 3 ateliers. Un le matin à 11h30, l'autre à 14h30 et 16h30 l'après-midi. Alors juste pour les animations pain, c'est conseillé de réserver au numéro de téléphone qu'on va vous donner
dans un instant.
Et puis autrement, l'événement, c'est grand public, ouvert à tous, pas besoin de réserver particulièrement.
L'entrée est libre et pour l'atelier là, de fabrication du pain, il y a un prix libre, on donne ce qu'on veut. Le numéro pour réserver sa place, c'est le 06 17 25 10 49. Puis aussi tout le programme à retrouver en ligne sur le site agrobio-bretagne.org. Également tout au long de la journée, des balades en calèche, une balade comptée à midi et à 15h. Je m'arrête sur cette proposition qui peut plaire par exemple au jeune public. Une façon de raconter, je cite, la fabuleuse histoire du fournil animé. Et puis pêle-mêle, vous proposez aussi un marché de créateurs et de producteurs. Il y aura combien de personnes présentes ?
D'exposants,
oui.
Je crois que c'est 14.
Donc un joli marché de producteurs et de créateurs. Il y aura des jeux en bois, une expo photo et de quoi se restaurer. Je vous laisse dire un mot sur le volet restauration puisque c'est en lien avec l'activité de votre ferme en partie.
Alors le volet restauration, on vous propose donc des bruschetta le midi, des végétariennes et au chili, donc qui seront cuites dans notre four à bois qui a été restauré il y a juste un an.
Bruschetta, c'est des tartines, hein,
c'est ça. C'est des tartines pizza là, avec un maximum de produits locaux dessus. Il y aura également des galettes végétariennes et des galettes saucisses.
De la ferme de la Hubaudière que vous avez déjà citée, qui est également située tout près de Fougères. Et pour compléter, il y aura tout au long de la journée de la musique avec le micro brass band French Mississippi. Je vous représente Blandine L'Écrivain, vous êtes paysanne, meunière et boulangère du côté de Saint-Germain en Cogles, tout près de Fougères. Et votre ferme, elle accueillera dimanche prochain, dimanche 10 septembre, un événement, sa boulange à Saint-Germain. Ça a lieu toute la journée de 10h30 à 18h. Le programme est à retrouver sur le site d'AgroBio 35, le groupement des agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine. Ce site, c'est agrobio-bretagne.org. Et puis, il y a un numéro de téléphone pour pourquoi pas participer à un atelier de fabrication du pain. C'est le 06 17 25 10 49. Tout ça, c'est à prix libre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Beauté, cagoulée et gantée. Au loin, dans le vert de la Somme. Deux silhouettes multicolores. Avance en zigzagant. Elle a 8 ans, il en a 5. De vrais bijoux d'indépendance. Mais leur présence là-bas au loin n'arrête plus l'intolérance. il cueille des jonquilles. Riant en dévalant la pente, glanant crocus et personnage, les deux lutins font une offrande aux ennemis qui les protègent. Et dans leur candeur, ils ignorent ces gens qui n'adouciront pas les orties et les chardons qui, en 20 ans, ont poussé sans bruit. Des jonquilles, il cueille des jonquilles, et c'est tant mieux, car sous ce toit, on commence à payer le prix d'une alliance de gala, d'un diamant de verre poli. Et c'est tant mieux, car sous ce toit, on rêve dans un silence étanche au bras d'une vie nouvelle, ce matelas de verre pilé.
Des jonquilles par Albin de la Simone sur Canal B, un titre à retrouver sur l'album Les siestes acoustiques de Bastien Lallemand qui est sorti à l'été 2022. Les siestes acoustiques, ce sont des concerts intimistes qui ont fait le tour de France avec à chaque fois une équipe un peu modulable autour de Bastien Lallemand. On a aussi pu retrouver, en plus d'Albin de la Simone, Babix, JP Nataf et bien d'autres. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur Canal B. Vous êtes en train d'écouter l'Arène, c'est l'émission d'information locale qui a décidé de quitter les réseaux sociaux durant l'été. Et à la place, petite révolution, je vous propose de suivre le programme sur le site internet, mais aussi via une newsletter hebdomadaire qui s'appellera Le Courrier de l'Arène. L'idée, c'est de mettre en valeur un reportage, une interview et puis une info chaque semaine. Si vous êtes intéressé, il y en a déjà qui l'ont fait, vous pouvez me le dire par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Allez, l'émission d'info locale continue avec la chronique de la CIMAD qui sera suivie d'un témoignage de personnes retenues. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Lucie, tu es intervenante juridique au centre de rétention administrative de Rennes pour la CIMAD, cette association de soutien aux personnes exilées. Toutes les deux semaines, avec l'équipe de la CIMAD, vous nous donnez à entendre ce qui se passe entre les murs de ce centre de rétention, aujourd'hui sous forme de chronique. Selon la législation française qui encadre le droit des étrangers, les parents d'enfants français qui prouvent s'occuper de l'entretien et de l'éducation de leur enfant sont légalement protégés contre l'expulsion. Et ils sont supposés pouvoir prétendre un titre de séjour de droit. Mais qu'en est-il des personnes dont l'enfant n'est pas encore né ? Au CRA de Rennes, nous rencontrons régulièrement des hommes dont la compagne française est enceinte. À la naissance de l'enfant, ils deviendront donc parents d'enfants français. Mais en attendant, ils sont enfermés en centre de rétention, laissant leur compagne seule à gérer matériellement et émotionnellement la grossesse. Et ils risquent l'expulsion, sans possibilité de connaître et de s'occuper de leur enfant à naître, ou même parfois de le reconnaître et de faire valoir leur autorité parentale. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, dont la France est signataire, protège l'intérêt supérieur de l'enfant. Séparer un enfant d'un de ses parents avant même sa naissance, le privant de la possibilité d'être présent dans sa vie, contrevient manifestement à ce principe international. À l'heure où la place des femmes dans la société est devenue une question éminemment politique, que le gouvernement prône l'égalité femmes-hommes et que la notion de charge mentale a été largement acceptée dans la société, créer des situations d'isolement de la mère contribue à précariser son statut et ses conditions de vie. Un homme brésilien est actuellement enfermé au centre de rétention administrative de Rennes depuis le 8 août 2023. Il avait déjà été enfermé au CRA en mai. Or, sa compagne, reconnue handicapée, est enceinte de 8 mois et peut accoucher à tout moment. Quand nous l'avons reçue lors de son premier enfermement, sa situation nous avait déjà marqués. Sa compagne était enceinte, la mairie avait refusé de procéder à la reconnaissance prénatale de paternité avant la deuxième échographie, qui avait lieu 3 jours après la date de l'enfermement de monsieur. Et leur cérémonie de mariage était prévue pour la semaine suivante. Heureusement, il avait été libéré par la cour d'appel, après 4 jours d'enfermement. Mais la préfecture fait actuellement preuve d'un vrai acharnement le concernant. Ils l'ont à nouveau arrêté, quelques mois plus tard, et l'ont de nouveau enfermé au centre de rétention, alors que sa femme termine le 3e trimestre de sa grossesse. Leur mariage n'a pas pu avoir lieu, car le procureur s'est opposé à leur union. Le juge vient d'invalider cette décision, et donc de permettre au couple de se marier. Entre-temps, monsieur a réussi à reconnaître son enfant préalablement à sa naissance, mais cette reconnaissance ne suffit malheureusement pas à changer sa situation. Un autre homme, de nationalité algérienne, est actuellement enfermé au centre de rétention de Rennes, et sa compagne, également française, est enceinte de 6 mois. Cette personne, arrivée mineure en France et n'ayant jamais eu de papier d'identité, n'a jamais pu reconnaître son enfant, car la mairie lui réclame un document d'identité. Sa compagne n'habite pas sur Rennes, et elle vient lui rendre visite au CRA plusieurs fois par semaine. Pour lui rendre visite, elle dépense donc beaucoup d'argent et d'énergie, car ce sont de longs trajets. Dès que ses enfants seront nés, leurs pères seront en mesure de déposer une demande de titre de séjour, en tant que parents d'enfants français. En attendant, ils attendent au CRA, dans l'angoisse de se voir expulsés, sans même rencontrer leur enfant, et en étant privés par la préfecture de la possibilité d'exercer leur rôle de père. C'est bien là l'absurdité de l'acharnement de l'administration française qui cherche à les expulser alors qu'elle ne peut pas ignorer leur situation. Suite à l'enregistrement de cette chronique, l'équipe de la CIMAD m'a proposé de recueillir le témoignage du futur papa qui vient juste d'être évoqué. J'ai accepté et je vous propose d'écouter l'histoire de Jefferson. Si on met son jugement moral de côté, il se trouve être un bon exemple de parcours complexe. En effet, après avoir purgé sa peine pour trafic de stupéfiants, il s'est construit une vie professionnelle et familiale ici en France et se retrouve aujourd'hui menacé d'expulsion alors que son enfant est sur le point de naître, un enfant qui aura, lui, ses papiers français.
Allô?
Eu não posso mais ficar aqui.
Je m'appelle Jefferson, je suis brésilien, actuellement j'ai 27 ans. Normalement actuellement je suis cariste, aujourd'hui je me trouve dans un centre de rétention pour cause d'interdiction de territoire français que je ne savais pas. Le 1er janvier de 2023, cette année, je me fais contrôler pour les policiers. J'ai été conduite en garde à vue. Et là, en garde à vue, le monsieur policier, il a cherché sur l'ordinateur, il a vu mon nom, il a mon prénom, et du coup, il a dit que voilà, j'ai une interdiction de territoire français pendant 10 ans. Mais moi, j'étais surpris dans le moment. J'ai dit, je savais pas. Et le monsieur policier dit, oui, vous étiez condamné entre le 2018 et 2019. Et je dis oui, j'étais condamné, mais je savais pas exactement que j'avais une interdiction de territoire français.
C'était lors d'un contrôle routier, c'est ça?
Oui, c'est bien ça. C'est bien ça.
Quand est-ce que vous êtes arrivé au centre de rétention et à quoi ressemble la vie quotidienne quand on est au centre de rétention?
comme des gens disent beaucoup ici, c'est beaucoup pire que même la prison. Parce que vous voyez, c'est un centre, mais vous avez la totale liberté de marcher avec les autres, mais il y a toujours une histoire de bagarre, toujours une histoire de, voilà, de violence, de certaines drogues qui entrent en centre de détention. Donc voilà, c'est la deuxième fois qu'ils me ramènent ici. Ils ont déjà me ramené le début de mai, mais j'étais libéré le quatrième jour.
Est-ce que vous pouvez me raconter quand est-ce que vous avez quitté le Brésil et puis pour quelles raisons?
Tout a commencé, c'était un moment difficile au Brésil. J'étais mineur encore, 17 ans. Après, j'ai rentré à l'armée au Brésil. Après 6 mois, j'étais démissionné. Donc à partir de ce moment-là, j'ai trouvé aucun boulot, j'ai trouvé aucun travail. 2015, 2016, 2017, 2018, je suis toujours en train de chercher de travail, je trouve pas du tout. Donc 2018, hein, il y a des messieurs qui venaient vers moi, qui me proposaient des choses, voilà, est-ce que tu veux faire de business, des trucs comme ça pour gagner un peu d'argent. Donc je lui ai dit non, je fais pas ce genre de choses. Donc j'ai refusé, et puis malgré, j'ai accepté de ramener de la drogue, de la cocaïne en France. Et puis voilà, j'ai commis cette bêtise en 2018. Et là, je me suis arrêté pour la douane à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris.
C'est là que vous avez été incarcéré, vous êtes passé, oui, par la prison. Et donc c'est pendant ce passage en prison que vous avez, sans le savoir, été sous le coup d'une interdiction de rester en France.
Oui, c'est pire qu'au QTF. Ça veut dire que je suis vraiment interdit dans le territoire français.
Vous êtes donc venu en France en 2018. Est-ce que l'idée au départ, c'était de retourner au Brésil?
Normalement, oui, c'était l'objectif. Après, elle m'est arrivée en France en 2018. J'ai passé 18 mois ferme dans la prison, la maison d'arrêt Fleury-Mérogis. J'ai passé au jugement le 26 septembre 2019. Et puis, une semaine après, j'étais libéré. Sauf que moi, quand j'ai passé un jugement, j'ai croyé dans ma conscience que moi, je dois être expulsé vers le Brésil. Sauf que non. Il m'a ramené jusqu'à un gros portail en prison. J'étais devant la prison, sans adresse, sans aucune idée de quoi faire. Donc voilà, malgré que je connais un ami, voilà, il m'a appelé, il a dit si tu veux, tu peux rester chez ma mère. J'avais 1000 euros en poche parce que j'ai travaillé en prison. Et puis voilà, j'ai me déplacé jusqu'à Cholet. Et voilà, là j'ai fait la connaissance de sa sœur, sa petite sœur, qui voilà aujourd'hui c'est ma compagne. On a tombé amoureux entre moi et elle, et puis on a commencé à être un couple. Ma compagne a tous l'agoraphobie, elle a handicap. Donc voilà, c'était un moment vraiment difficile de l'année 2020 par rapport au Covid, le confinement. Donc voilà, j'ai toujours l'accompagné. Et puis fin 2020, j'ai demandé sa main en mariage. Et 2021, on a commencé à habiter ensemble.
Estou sentado à beira de caminho que não tem mais fim.
Et aujourd'hui, vous avez donc, vous attendez un enfant. Comment est-ce que vous êtes passé deux fois donc au centre de rétention? Vous y êtes toujours. Comment est-ce qu'on se prépare à l'arrivée d'un enfant quand on est justement retenu et à distance de sa compagne?
C'est horrible. C'est une sensation, voilà, qui est un moment que moi, je dois être de son côté, de donner la force pour dire voilà, comme elle souffre de la agoraphobie. Du coup, c'est un peu vraiment compliqué. Chaque jour, je l'appelle, de donner ma force, de le garder la calme. Ça me touche vraiment parce que, vous voyez, il y a un enfant qui va arriver, il parle à la présence du père. Ça me laisse vraiment triste.
C'est quoi la date prévue pour l'accouchement?
C'est le 24 septembre. Avant de venir en centre de rétention, on a fait déjà les achats pour la chambre. En fait, nous, on habite dans un petit appartement. dans le moment, ça va être le bébé, ça va être dans notre chambre. Mais nous, on a acheté tout ce qu'il faut de petits vêtements, des meubles pour mettre tous des habits de bébé. Donc voilà, la dernière échographie, j'étais présent. En fait, j'ai essayé tout de l'accompagner, même dans la sage-femme, pour faire des petits entraînements. Donc j'étais toujours présent.
Est-ce que vous savez si ça va être un garçon ou une fille ?
Oui, on a entendu une fille qui s'appelle Ariella. On a fait un baby shower avec notre ami, avec la famille. Donc, on a fait cette surprise-là. On a découvert que c'était une fille. Il y a des messieurs qui sont venus, qui voilà, ils posent la même question. Pourquoi vous prenez votre compagne et votre enfant et ramène au Brésil pour faire la construction d'une cellule familiale là-bas ? Déjà, je l'expliquais que le Brésil, c'est un pays vraiment compliqué, c'est un pays violent. Il y a des trafics de stupéfiants. Entre les policiers et les trafiquants, il y a toujours de la guerre. En fait, c'est de la guerre. Il y a même des enfants qui sont morts par rapport aux balles perdues. Donc, je peux pas ramener ma compagne et mon enfant au Brésil pour voir telle violence.
Est-ce que vous anticipez le risque que vous soyez expulsé vers le Brésil ?
En fait, ça m'inquiète beaucoup parce que, comme vous voyez, il y a toujours cette risque de je retourner au Brésil et puis je vais me trouver dans une situation, voilà, le même monsieur qui m'a envoyé ici, il va dire, voilà, t'as perdu la drogue que je t'ai envoyée, maintenant on va faire comment ? Tu vas me rembourser de cet agent, tu vas faire comment ? Et puis, même, il peut me tuer par rapport à ça.
Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez avoir la décision ? Enfin là, votre rétention, il y a une date de fin ?
En fait, demain, je vais passer encore devant le juge de liberté et détention. Comme quoi, s'ils vont me mettre en liberté, s'ils vont me donner une assignation résidence. Parce que à un moment que j'ai découvert cette interdiction dans le territoire français, j'ai déposé un recours près du tribunal de Bobigny à Paris. Et puis, en attendant toujours une date pour faire la relève de cette interdiction. Je ne comprends pas pourquoi ils me ramènent une deuxième fois ici en centre de rétention. Et je ne comprends pas pourquoi la préfecture ne me laisse pas la chance pour vivre normalement, pour vivre... voilà, à côté de ma compagne, de notre projet, même de notre projet de mariage qui était annulé. On était prévu marier le 27 mai de cette année. Donc, il y a une procureure de la République d'Angers qui a fait une opposition contre notre mariage. La procureure de la République dit que c'était un mariage faux, c'était un mariage blanc. Donc, on a fait tout un dossier de preuves comme quoi on est ensemble depuis 2019. Le mardi dernier, c'était le 29 août, on a reçu et c'était positif. Donc là, on peut se marier.
D'accord.
Mais sauf que je suis en centre de rétention.
L'illustration musicale est signée Erasmo Carlos, en brésilien. C'était le titre Sentado à Beira de Caminho, assis au bord de la route, un morceau de la fin des années 60 et que vous venez donc d'écouter sur Canal B. Tout de suite, on reste ensemble pour une recommandation du jour avant de se quitter. Ces recommandations de fin d'émission, ce sont souvent des événements que je vous conseille, parfois des lectures ou des choses à écouter. Aujourd'hui, j'en remets une couche sur le film Algue Verte, une réalisation de Pierre Jolivet qui est arrivée sur les écrans mi-juillet. 350 000 entrées ont déjà été comptabilisées, c'est un bon score. Le film qui raconte le combat de la journaliste Inès Leroux pour faire la lumière sur le danger sanitaire, économique et social des algues vertes, eh bien ce film, il est encore à l'affiche. Il y a par exemple une séance par jour au cinéma L'Arvor à Rennes, ailleurs sur le territoire, on peut aussi en profiter pour annoncer le ciné-débat qui est organisé ce jeudi 7 septembre au cinéma de l'Aurore à Vitré, c'est à 40 km à l'est de Rennes. Rendez-vous à 20h30 pour voir le film évidemment, puis pour écouter une journaliste de Splende, ce média d'investigation breton dont on parle régulièrement sur Canal B. Seront aussi présents Pauline Pénobert de chez Eaux et Rivières de Bretagne et puis un formateur en agriculture. Je vous laisse sur ce sujet des algues vertes avec la rediffusion de l'échange avec un des personnages portés à l'écran grâce au film Algues vertes. Et il était venu en studio durant l'été nous raconter son combat. Yann Offray, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente et je vous remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Vous menez un combat qui est toujours d'actualité avec votre famille devant la justice pour que le décès de votre papa, Jean-René, qui est décédé en 2016, que ce décès soit reconnu comme lié aux algues vertes. Et votre histoire, elle est au cœur du film de Pierre Jolivet qui est sorti le 12 juillet au cinéma. On va commencer par raconter votre histoire aux auditeurs, Yann. C'est une histoire qui a déjà été rendue publique dans la bande dessinée de la journaliste Inès Leroux en 2019, réalisé avec Pierre Van Hove aux éditions Delcourt, et 150 000 exemplaires de cette bande dessinée ont trouvé des lecteurs. Une bande dessinée qui est maintenant adaptée au cinéma sous la forme d'un film qui prend des airs de polar. Je voulais d'abord vous demander comment est-ce que vous vivez avec votre famille le fait que cette histoire qui est évidemment douloureuse devienne maintenant l'objet d'un récit et soit racontée au public. Il y a d'abord eu la bande dessinée peut-être que vous avez lue.
Ouais, ça a été fait en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu la BD où on était loin d'imaginer le succès qu'elle allait avoir. Parce que c'est un sujet qui est essentiellement breton, qui est très territorial. Du coup, nous on avait vu quelques planches de la BD que Inès avait accepté de nous montrer pour voir un peu vers où ça allait nous mener. On a été d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Et après, du coup, il y a eu le succès de la BD. On était super contents que plein de monde la lise, que le sujet soit mis sur la table. Et elle nous a aussi apporté des éléments de réponse, des outils de compréhension, parce que nous, on s'est retrouvés baignés dedans malgré nous. Ça n'a pas été un choix, c'est comme ça. Et cette BD, du coup, nous a apporté des réponses, des pistes de réflexion, et un peu des pistes à suivre aussi pour nous, pour aussi voir le passé, voir qu'il y a aussi l'affaire Morfoise qui est aussi en lien avec les algues vertes, et on n'était pas très conscients au moment-là. Et après, du coup, quand on a appris qu'il allait avoir un film, ça restait dans un premier temps très virtuel pour nous. C'était un peu... ça nous dépassait totalement. C'est des choses qu'on voit typiquement qu'à la télé. Je pense qu'on n'a pas réalisé sur le coup. On s'est dit, ok, tant mieux, ça, on va en parler. Et du coup, plus le temps passait... On a pu avoir accès un petit peu au scénario, on a vu les actrices, les acteurs qui étaient recrutés, du coup on voyait que le projet commençait à grandir et ça devenait de plus en plus concret. On a été participer à quelques scènes du tournage, ma mère et mes sœurs sont figurantes dans une des scènes. Du coup on a essayé de vivre aussi le film plus que de subir en fait tout ce qu'on a subi, on préfère devenir vivre les choses. Et du coup là il y a eu beaucoup d'avant-premières et je pense qu'il va nous falloir... plusieurs mois pour réaliser ce qui se passe sur les gens, comment ils vont voir notre histoire, comment ils vont l'interpréter. L'objectif, c'est que ça fasse du bruit et que c'est pas tant pour nous, en fait, c'est pas notre histoire familiale qui est importante, c'est ce que tout le monde peut subir sur ce problème. Et l'idée, c'est de communiquer là-dessus pour qu'on limite la casse et que ça se reproduise plus. Donc, certes, ça parle de notre famille et ça, on est directement concerné, c'est nos noms. On a fait le choix de garder nos noms, prénoms. Parce que c'est important, en fait. Il y a de la fiction, mais la part de vérité est aussi très, très importante pour que les gens ils captent que ça peut les concerner aussi. Du coup, on va réaliser, je pense, beaucoup plus tard. Mais il y a toujours des moments forts dans les avant-premières quand les gens se lèvent et applaudissent. En fait, c'est pas nous qui applaudissent, c'est le film. Mais
c'est aussi une forme de soutien et puis d'encouragement à poursuivre ce combat.
Carrément. Et du coup, c'est des gens qui, avec différents niveaux de conscience, à mon avis, sur le sujet, des gens qui ont lu la BD et qui se sont renseignés au-delà de la BD et qui connaissent plein de choses, des gens qui ont juste lu la BD, des gens qui n'ont pas lu la BD. Et en fait, les réactions sont plutôt similaires partout, dans toutes les salles, où les gens sont satisfaits de l'avoir vu Et ça met du visuel aussi sur l'omerta en fait de l'agroalimentaire en Bretagne.
Dans ce film, l'un des événements qui relance le travail d'enquête d'Inès Leroux, c'est donc le décès de votre papa. Je vais rappeler les éléments pour les auditeurs qui n'ont ni lu la bande dessinée, qui n'ont peut-être pas encore vu le film. Décès qui est survenu en septembre 2016 dans l'estuaire du Gouessant. On est à Ilion, c'est vraiment pas loin, c'est à une heure de Rennes, tout près de Saint-Brieuc. Votre papa, il avait 50 ans, il était du genre sportif, il était d'ailleurs en train de faire son jogging. Et les autorités font se diriger plutôt vers la piste d'une crise cardiaque. Ce sont en fait les associations environnementalistes, on la cite, cette association Alto Marée Verte, qui va penser aux algues vertes et à l'impact de l'hydrogène sulfuré sur le corps humain. Mais l'autopsie aura lieu trop tard pour le prouver, d'où votre combat qui continue aujourd'hui. Et dans le film, on entend la douleur de votre maman qui est interprétée par Julie Ferrier, qui explique notamment le temps dont elle a besoin pour se défaire d'une certaine culpabilité face à ça.
Nous, le soir de la nouvelle, en gros, dès le début, on a été dépossédés en fait, de ce qui se passait, des événements. Les responsabilités qui auraient dû être prises n'ont pas été prises. Que ce soit sur l'autopsie, en fait, on est venu nous demander est-ce qu'on veut faire une autopsie, sauf que quand il y a un accident de voiture, on ne demande pas aux gens si on fait une prise de sang. C'est d'office. Nous, on nous a posé cette question, on nous a mis face au fait. On nous l'a posé plusieurs fois, à plusieurs moments différents. On a toujours refusé parce que, voilà, on a appris le décès, on était sous l'eau, on était noyé et on a été confronté aussi à, on a été objectisé justement dans le sujet des algues vertes. Les assos qui mènent un combat ultra juste ont commencé à prendre en main le sujet, sauf que nous on était à des kilomètres et des kilomètres de savoir ce que c'était. Et puis après les médias ont commencé à parler à notre place. Du jour au lendemain, on a appris que mon père était agriculteur, qu'il avait 4 enfants. Il y a eu toute une vie qui a été inventée et tout le monde parlait à notre place. On ne voulait pas prendre la parole, mais du coup, les gens nous ont donné une parole. Donc on a subi pendant très longtemps et on voyait tout ce qui se passait dans les médias. Les autorités qui faisaient une politique molle, puisque vous voulez faire une autopsie, ce que vous ne voulez pas. En fait, vous avez des responsabilités, vous êtes élu ou vous êtes placé là. Vous assumez vos responsabilités, personne ne l'a jamais assumé ça. Et toujours aujourd'hui, il y a toujours un déni, il y a toujours une omerta. On a vraiment été manipulé, sans s'en rendre compte. Enfin, c'est l'objectif de la manipulation, mais du coup, on a été dépossédé. Et du coup, justement, le film, en fait, permet de mettre un peu en avant cet aspect-là. Enfin, il faut se rendre compte que le jour de l'enterrement, la gendarmerie nous a appelés pour nous convoquer. C'est dire à quel point ils sont déconnectés. Et du coup, le film met un petit peu en lumière ça.
Le film, il se termine avec la mention que votre famille a été déboutée devant les tribunaux. Ça a eu lieu à l'automne dernier, car vous avez attaqué en famille la mairie d'Ilion, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc et puis la préfecture. Objectif, voir reconnaître la faute commise par les autorités publiques. On rappelle qu'une trentaine de sangliers avaient déjà été retrouvés morts sur le même lieu en 2011. Et le second objectif, c'est de faire indemniser votre famille pour le préjudice qui a été subi suite au décès de Jean-René Auffray. Cet appel, il n'y a pas de date pour le moment. Comment est-ce que vous l'abordez? Il faut donc garder cette énergie combative jusqu'à la date du procès en appel.
Ouais, nous, il a un double objectif cet appel. Le premier, c'est en fait de faire reconnaître la responsabilité de l'État dans l'ingérence en fait sur le problème des algues vertes, que les responsabilités soient prises et que les responsables soient mis aussi devant leurs responsabilités, devant les faits. Et
parce que par exemple, il n'y avait pas de signalétique en fait sur le lieu jusqu'en 2016, c'est ça ?
Il y a eu de la signalétique qui a été enlevée par la municipalité ensuite. Du coup, il y avait des panneaux, mais le panneau il doit être à 2 km du lieu. Mais non, il n'y avait pas de panneau sur le lieu alors qu'il est il était accessible, il l'est toujours, il me semble. Et du coup, le premier objectif, c'est que l'État, avec un grand E, soit mis face à ses responsabilités et arrête la politique de l'autruche. Et du coup, prennent de réelles mesures. Le plan algues vertes, c'est de la foutaise parce qu'il sert juste à faire du contrôle qui, les trois quarts du temps, ne sont pas réalisés. C'est incitatif, c'est pas contraignant. Et c'est essentiellement ramasser des algues. Sauf qu'on va ramasser des algues toute notre vie, ça va coûter méga cher à tout le monde, tout le temps, si on cherche pas à résoudre la cause. Et pour l'instant, les réponses politiques actuelles, c'est ça. Et du coup, on veut dépasser en fait juste cette espèce de pseudo-plan algues vertes qui est complètement stérile à l'échelle bretonne et à l'échelle nationale. Ça, c'est le premier objectif. Et le second, c'est juste un objectif de communiquer. nous on considère que tant que le procès il est en cours, on continue d'en parler dans les médias, on fait un film. Des associations se montent, des collectifs se créent, des associations prennent en main aussi le sujet, parce que c'est avant tout un problème environnemental, ça se limite pas aux algues vertes, c'est essentiellement un problème d'eau. Et du coup c'est ça le deuxième objectif, c'est mettre du bois dans le feu pour que ça s'alimente encore et encore et encore. Et du coup ça c'est ce que nous on peut faire pour la cause. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire appel à notre place. Du coup on prend cette responsabilité et on y va. Et puis s'il faut aller plus loin que l'appel, on ira plus loin que l'appel en fait tant que ça fait du bruit.
C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.